Lecture orale et participative du livre Le Malingre de Miachkov Avankov dans les lieux du monde où se déroule son récit.
Page 77. Enregistré près d'un lac dans la région des Mille Lacs en Pologne.
In the forest. Il a digéré l'incident de la nuit, ou bien était-ce un rêve, lorsqu'un rire frénétique se provoque en son sein à propos de la peluche qu'il enlace dans ses bras, à qui il fait boire du café et qui le fait rigoler plus qu'il ne l'avait présagé. Remis sur pied moralement, il prend part tout naturellement à la manifestation qui a lieu dans sa ville de merde et qui bifurque un peu plus loin en direction du village vacances. Il suit gentiment l'immense cohorte de syndiqués pendant 30 belles minutes en souriant sous cap à qui veut l'entendre. On suit la cohorte, cherchant des regards complices là où il n'en trouve que des fuyants. La foule borde le long lac en un tour complet. L'odeur des merguez accompagne un ralentissement provisoire du rythme au niveau du barbecue. C'est alors qu'il accélère et se cale en 8e place du cortège. Il évite la pole position pour ne pas diriger ses humains, dont il ne connaît pas foncièrement les coutumes. Pensant à halluciner, il reconnaît Chichon, un ami de vacances, qui marche devant lui, son copain, et carrément le premier du groupe, 10 mètres devant. Prime Sautier lui crie « Courage !» Et son sourire malicieux, presque moqueur, traduit « Tu es fou de faire ça. Moi, je ne pourrais pas mener ces braves gens ainsi. J'ai peur pour toi, mon chichon. » Mais la foule va en grossissant en aval, comme une big goutte géante d'humain. La responsabilité énorme de la prime position de son ami lui confère une crainte mêlée à 8% d'aura de fierté non feinte. On traverse les herbes, foulant la terre nue et tassée qui borde lac long et fin et dont la pointe est préoccupée par une sorte de petit chalet pourrave, MDR. Je constate que les gens se stoppent au chalet tandis que je les dépasse en regardant derrière WAM de trois quarts gauche. Le terrain est devenu accidenté car pourvu d'un sillon de terre maintenant détassé et fleuri. Quelques personnes semblent encore me suivre, ou est-ce mon imagination motivée par les bruissements végétatifs émanant derrière moi qui défigurent la réalité? Je suis conscient de prendre le mauvais choix, car il est ardu de progresser sur cette rive. Il me semble me souvenir d'un rêve semblable à la situation, mais c'est peut-être la manifestation de mon intuition. Quoi qu'il en soit, les stridulations qui me suivent me poussent au devoir, et je ne peux me résoudre au choix du demi-tour. Le lac est à ma gauche et la broussaille à droite. Désormais, ce vieux chemin abandonné me donne la sensation d'être seul et en danger. La rive opposée me rappelle qu'au début de la balade, j'aurais dû revenir en arrière, mais aussi que chaque pas me forçait à continuer. Je suis attiré parce que j'imagine être les joyeux échos des manifestants de l'autre côté. Et afin de contrecarrer mon inquiétude, je me plais à surévaluer leur humeur générale en l'estimant un pseudo-nirvanesque. Au bout d'un bon petit moment, pas trop long non plus, je discerne en léger contrebas, derrière les boisements feuillus, de vigoureuses poutres rondes et blanchâtres, plantées adroitement dans le sol sableux, baignées de lumière, délimitant de façon décousue un vaste manège quadrangulaire, encerclant des chevaux vivants, destinés a priori à être montés plus tard. Depuis long time, je suis convaincu que ces big bestioles ne m'aiment pas. Et curieusement, j'éprouve cette assertion en projetant de m'approcher de leur chair, poils et organes, et de leurs yeux semblables à des grosses bibilles bien luisantes. Je me lance, présage la confiance et me presse à la hâte en descendant vers ce terrain dont j'envisage de traverser le paysage. Je saisis mieux la configuration de la place. Un sol argilo-sablonneux dans lequel il me sera pénible de progresser. Une sortie à gauche, large de 3 mètres, et en face, un bâtiment de bois. En plein milieu se tiennent un ou deux chevaux qui s'affolent en se préoccupant de ma présence. Rentrer dans le secteur d'un troupeau, c'est en devenir un membre qui remet en question la hiérarchie du groupe et la voie se réorganiser avec lui. Ces animaux ont de grosses babines bien dodues, on dirait. Ça vourge au-dedans. Je n'hésite pas à approcher la barrière vers son fondement, pour la pénétrer et l'allonger de l'intérieur, pour éviter de traverser le terrain et me trouver le plus loin possible de la ponette et de l'étalon. Malgré mes précautions de distanciation, la jument louvoie vers moi par un coup, en orientant sa croupe vers mon corps pour tenter de m'asséner des coups de sabot, mais elle manque gracieusement à sa tâche pour le moment. Entendons-nous, je capte ce qu'il se manifeste en moi. Augmentation de mon cardiogramme par un facteur double. Disparition de ma salive, polyvide, vide, yeux exorbités et attention affolée. Nonobstant l'expression des symptômes de ma panique, je m'encourage à en finir. Les rosses sont de vraies saletés et se montrent systématiquement agressives à mon égard. Même en rêve. C'est la raison et sûrement la conséquence de l'aversion que je leur porte. J'esquive les attaques comme je peux, mais elles s'acharnent tant qu'elles me touchent. Maintenant, le malbourrin a pris la relève et mitraille mes flancs avec application dans un nuage de bourrades prodigieuses. Dans mes cris, je danse sur le sable comme une chiffe. Le boulevard de l'horreur tire en longueur son gros fessard. Pareil à de puissants coussins alertes, fait mouliner ses papates qui martèlent des coups lourds comme des cathédrales sur mes pauvres cuisses ramollies de bleu. La cadence infernale de la branle des avoines m'a déchiré le blue jean, me déculottant au passage, exposant mon arrière-train fatigué qui ne manqua pas d'échauffer la vaillante bête au vu de son sexe dilaté et infesté de mouches à merde. In extremis, j'ai le temps de rouler extramuros à l'abri d'un viol certain. Ayant subi une indiscutable volée, je suis libre sous le soleil accablant qui empire le délire de mon état. La poussière a volé de partout. J'en ai absorbé par ma bouche et une pellicule en couvre mes muqueuses nasales, lyophilisées et mes yeux magnifiques. J'ai affreusement mal aux cuisseaux et mesure combien le polichon m'a fracassé. Après ça, revenu sur le sentier en boitillant et pleurant, je suis littéralement un chien. La route tourne un peu à gauche et je vais la terminer enfin. Même si elle est aussi accidentée que tout à l'heure, je prends presque plaisir à avancer. Je me considère comme sauvé et ça va bien mieux. Je songe à cette attaque et me demande qui en est le responsable. Et si c'était de ma faute? Malgré toutes les précautions dont j'ai usé, j'ai volé le territoire d'un animal. Quel salaud, avec son bon poil beige et blanc cassé, blanc crème, ses cheveux marrons, clairs, roux, ses grosses bibilles d'yeux noirs lustrés et sa babine inférieure follement poilue et pendante qui contraste follement avec son attitude belliqueuse. J'ai toujours posé gréviste, mais c'est ma dernière tentative de manifestation devant des chevaux. Les groupes sont dangereux à traverser.
Lecture orale et participative du livre Le Malingre de Mieszko Bawenkow dans les lieux du monde où se déroule son récit.
Pages 92 et 93, lu par Élise, Nicolas et Manon dans les rues de Glasgow, en Écosse.
Adam et Ève, combattus par le vent et la pluie en tenaille, Yel marque la route de l'indéniable son du V8 couleur master. Le coffre est rempli de choses. Plusieurs carnets vierges qui allaient tâcher de le rester et des godasses déboîtées. On s'arrête souvent car il doit se faire cracher. Ces naseaux produisent une quantité importante de mucus à cause du vent qui s'y accumule. C'est pourquoi, sous des airs de rebaud, il demande de l'aide à son assistante, écumant les relais d'autoroute ouverts et fermés pour travaux, dans lesquels il s'engouffre à pas de loup par la sortie. Il affectionne ces derniers car, de son humble avis, il prétend qu'il raconte une histoire. Entre chaque arrêt, il déblatère sur ce sujet, laissant son verbiage pisser sur la route des langues déliées, en détaillant les raisons de cette fascination. La puissance et l'odeur qui se dégagent de leur délaissement, les herbes folles et la mousse sur le vieux mobilier chargé de mixtions vétustes. Ces lieux évoquent multitude d'histoires dues au passage des gens qui partent pour la belle vie en vacances et s'arrêtent stressés ou de mauvais poil de cucu sur ces lieux transitoires. La vida loca s'y invite et la famille, dans son concentré, se résout à en être l'acteur principal. Ces hétérotopies varient en fonction de l'horaire et sont aussi nourries par la lubricité de certains humains, la solitude des chauffeurs et la saleté qui s'y séjourne. Les aires de repos fermées regroupent un potentiel imaginatif qui inspire quantité de mystères qui se matérialisent surtout quand on y accède en bagnole et même à pattes. Même encore plus à pattes d'ailleurs, lol. Genre de stop, quoique ça se discute, MDR. Yel en sont friands. À chaque arrêt, son assistante perfectionne bien le truc. Elle offre le bout de son index contre une de ses narines et y pulvérise la morve à la parisienne. Ce mouchage à l'extraction libre, appelé aussi le mouchoir d'Adam, permet, quand on vit nu ou sur les routes, de se vider les canaux respiratoires dans les airs et le repos du mucus. De meilleure forme après cet exercice, Yael avale l'enrobé pour atterrir sur la capitale de la Grande-Bretagne. Suite à leur installation dans la suite pour lui et pour elle, dans la chambrette sombre et chouette des derniers étages d'un bouge, Yael ont chacun quartier libre, mais décide de découvrir la ville ensemble.
C'est beau ici.
Oui, c'est l'heure du thé.
On va bouffer un thé vu que c'est tea time. Ici en Angleterre, on est à Piccadilly Circus en prime. Il est quasiment 5 o'clock, madame la reine. Lol.
Courigole, dit-elle tandis qu'il s'installe dans un salon de thé.
L'auteur prend l'initiative d'employer le pronom féminin pluriel pour la désignation du groupe des personnes mixtes pour le reste du chapitre.
Alors, madame la reine d'Angleterre, lol.
La dame de service rentre près de leur tablette ronde et chic avec son plateau servi de deux tasses assez grandes avec pas mal de thé brûlant qui refroidit vite à l'intérieur de la céramique. Elle sera saisie de ce breuvage au goût très fumé, délice max, à la finesse grandiose qu'elles accompagnent d'un petit gâteau très sec, qu'elles mouillent dans ce liquide afin de le ramollir et de le rendre digeste et croquable. Puis, d'un autre truc à bouffer et aussi de petits fruits secs confits très bons qui collent aux doigts, qu'elles se pourlèchent en douce à l'abri des serviettes en tissu qu'on nomme sobrement « tissue » en anglais. Ce mot est employé aussi pour désigner la pâte à cul des garnitures de culottes lorsque les Anglais débarquent dans les slips des femmes réglées. Elles sortent vers 5 o'clock et des bananes et croisent des Anglais, grandmas, grammys, ainsi que dix riches personnes qui déclinent spontanément leur identité à leur vue.
My name is O'Brien.
My surname is Langlutzer Singh.
I am Sir Ting Fling Fling Singh.
I'm Sir Elton Jeez.
Vos gueules, putain de roast beef! Crient nos deux comparses de concert dans leur fort intérieur en opinant respectueusement du chef accompagné d'un petit sourire courtois marqué à haute voix par l'échange de leurs noms respectifs.
Hello, Mrs. and Mr.
Hello!
Ivre de joie, elles se rendent en dandinant chez Harrods pour succomber aux délices dévorées par Blue Cart dans cet ordre. Pâté, poivré de viande si gourmande, stylo délicat, caviar beluga en grappe de 400 grammes, cold beef préparé artisanalement et naturellement, un vertigineux fromage double blousseur, oursin frais rôti, sucrerie en meringue fragile et cassante à la simple vue, gelée tremblotante vert moulu en perroquet et boîte de bouboule arc-en-ciel. Tous ces présents sont empaquetés joliment dans ce beau paquet payé droit pour compte de taxes. La totalité des achats multipliés par 10 en quantité est envoyée dans la soirée même aux 10 familles presque pauvres dans la banlieue proche du East End of London. Pour leur kiff, elles se prennent quand même une belle tranche de lapin concassé de cartam et truffes douces destinées à être dégustées plus tard au pieu et sans pain avant de s'endormir paisiblement. Mais après ces emplettes, dans ce bel endroit, la plus belle boutique du monde, elles ailent le taxi qui les emmène dans le Londres very, very chic pour y déguster deux Welsh rare bites du plus bel effet, pinçables et marinés à la Worcestershire, sauce et bouillie au cheddar fondu avec 3-4 Métis, rose peinte de brune Lancaster, Holoir Triples à 8,50 °C, qui les alourdissent de rentrer pioncer pour regarder un Divix quand même, Fight Club ou peut-être un autre aussi naze, cool et moins violent.
Lecture orale et participative du livre Le Malingre de Miashko Bavankov dans les lieux du monde où se déroule son récit. Pages 117 et 118. Lors d'un voyage en moto en Auvergne avec Lucas et Antonin.
Seul tout. Il arrive au rendez-vous en premier et comme un charme, la fleur au fusil, prêt à pétarader des mots mûrs de sens racis. Quant à elle, se débattant avec la toiture de sa capuche, elle sent la feutrine des épaisses pantoufles en plumasse légère ballottées dans son sac à dos tendance. Les deux humains se rejoignent sur la place et partent ensemble dans un havre de la nourriture pour y manger chacun une omelette nature au sel et désemplir un petit chaud de viandox. Après le souper du midi et sous un soleil costaud, ils prennent acte de se traîner sur un chemin en évoquant leur aventure, l'Angleterre et l'Amérique du Sud. « Veux-tu poursuivre ça ?» demande-t-elle cavalière.
« Oui, madame. Maugerait-il avec ses yeux en banane renversée ?»
Il éclate de rire en masquant le cri d'un paix dévastateur aussi peu acide que gras. L'instant d'après, en pensant à l'abandon de son business, il laisse son regard skier par l'intention du hasard vers une adolescente, puis un chewing-gum rose pâle cloué au bitume et dont il imagine se repaître. « Les affres vont reprendre, se dit-il. » Boycott. Pour prolonger leurs fameuses aventures épisodiques, ils sont déposés au milieu d'un pays et sont munis de deux véhicules symboles de liberté. Des motosaucisses. Yel parcourt un chemin à l'aide de ses deux motocyclettes équipées en mode piste, avec des sacs rigides en alu brosselés et lisses à la fois, qui sont attachés avec des ficelles drôlement chères. Yel porte des affaires de moto qui sont aussi coûtées un bras. Un machin en mousse et plastouc pour pas se prendre le coup du lapin. Un truc pour les tibias, avec même du métal dessus. Bref, tout un attirail aux coloris bigarrés et en blouson pas classe, pas beau, de marque Sniff Poet, et qui empêche de se laisser les coudes, de se baiser les coudes. Il y a des autocollants pour une boisson énergisante collée sur les plastiques noirs et brillants des carénages. Après avoir parcouru un bout de chemin côte à côte, il est décidé de se séparer, puis de se rejoindre sur un point de la ligne imaginaire en clavant la Bolivie.
Violet. Voilà, tout tranquille, notre cher ami est sur sa bécane. Il fend l'air dans la musique du paysage et s'amuse à sourire à la vie qu'il chante en harmonie. Les couleurs sont jolies et tout, ça sent rien. Bon, déweur. Tout proche de la moto, il fait caca par terre en buvant conjointement sa boisson bien hot saucisse. Il chantonne des trucs qu'il connaît pas et récite des blagues inexistantes. Il voit gambader des animaux de dos et s'envoler des beaux oisifs. En roulant, il éternue contre la visière de son casque et ne peut se gratter le visage. Il est bien à l'abri de tout souci. Le pays n'est pas considéré comme vraiment dangereux. Ah donc, il accuse des précautions, mais pas trop non plus. Par contre, un soir, il va bien déguster. Trois femmes lui barrent un peu le chemin et l'obligent un peu à s'arrêter. Il descend et se fait taper, violer et voler ses biens. Après l'affaire, il ne se répète qu'une seule chose en boucle. Pour le moment, j'ai le trou de balle déconfit, le sexe blessé, le corps meurtri, la psyché quasi anéantie et je dois rééduquer mon lien avec mon intimité et mon rapport au corps biologique. Mais au moins, je suis en vie. Je dois la rejoindre au point de rendez-vous pour lui raconter mes tracas et on va rester dans le pays, car ces gens vont payer pour ça.